Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web avec Stéphane Crozat et Audrey Guélou.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc sur le cours émission de l'UTC WE01, écrire, communiquer et collaborer sur le web. Donc je suis aujourd'hui accompagné d'Audrey et Garance. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Stéphane, bonjour Garance.
Donc merci à Léo pour la réalisation. Et aujourd'hui, donc, le cours va être donné par Bruno Bachimon, enseignant-chercheur à l'UTC. Bonjour Bruno, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends très bien. Bonjour Stéphane, bonjour Audrey.
Bonjour Bruno.
Eh bien, donc le cours d'aujourd'hui s'intitule Raison graphique et raison computationnelle. Alors on va monter un petit peu en théorie par rapport aux cours plus méthodaux qu'on a fait dans les séances précédentes. On va parler théorie du support et grammatisation. Ensuite, on va décliner raison orale, graphique et computationnelle. Et Bruno, tu termineras sur quelques déclinaisons de la raison computationnelle, comme le réseau et les couches. Et tu nous feras une ouverture sur l'anthropologie du numérique. Mais là, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment, ce sera un peu la surprise à la fin.
Pour approfondir et puis pour retrouver donc les supports de cours, vous pouvez vous rendre sur librecours.net. Les cours émissions seront à réécouter, à retrouver sur Peertube, sur l'instance aperi.tube, chaîne Upload. Et puis pour poser vos questions, comme d'habitude, vous pouvez le faire via l'outil de messagerie instantanée Mattermost sur team.picasoft.net, équipe WE01, canal live, ou bien sur le pad pad.picasoft.net/p/WE01. On est aussi sur Twitter et Mastodon avec le hashtag Upload. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis je les relayerai à Bruno et Stéphane. Voilà.
Eh bien Bruno, si tu es prêt, on va pouvoir attaquer donc la première partie où tu devrais normalement, c'est ce que tu m'as annoncé, nous parler théorie du support et grammatisation.
C'est effectivement mon objectif. Donc je vais essayer de le relever avec... En vous donnant satisfaction, puisque si vous m'avez invité, c'est que quand même je puisse parler avec profondeur et intérêt de ces concepts un peu bizarres de théorie du support et de grammatisation. Alors l'idée qui est sous-jacente à ces deux concepts est assez simple. En fait, l'idée, c'est que lorsqu'on va écrire quelque chose, lorsqu'on va exprimer quelque chose, eh bien, la technique d'inscription, et en particulier le matériau d'inscription, c'est-à-dire celui qui va accueillir et recevoir l'inscription, eh bien, dans sa structure matérielle, va conditionner la manière dont on va le lire, le relire, et donc l'interpréter. Donc, c'est la théorie du support, c'est quelque chose d'assez par étape. C'est-à-dire, la première étape, c'est le fait de dire que dès lors que je vais inscrire un contenu sur un support, la structure de ce support va conditionner tout simplement les gestes et les conditions phénoménologiques et perceptives dans lesquelles je vais relire le contenu. Mais du fait que ça va modifier les conditions de la lecture, ça va du coup modifier les conditions d'interprétation. Et donc, c'est là qu'on va parler de théorie du support, c'est-à-dire que si le support modifie ma relecture, le support modifie du coup mon interprétation, donc du coup le support va modifier ce que je vais comprendre, ce que je vais retenir, c'est-à-dire la manière dont je vais penser. Et donc, lorsque je vais utiliser... un ensemble cohérent de types de supports. Par exemple, imaginons que je n'utilise que des supports d'écriture, par exemple, avec de l'écriture manuscrite ou imprimée, eh bien, je vais avoir un ensemble de propriétés partagées par ces types de supports qui vont donc avoir des propriétés communes dans ce qui concerne ma relecture, ma réécriture et, effectivement, mon interprétation. Et donc, à ce moment-là, j'aurai une manière de penser qui serait homogène spécifique à ce type d'inscription. Pour aller un peu plus loin, ce qu'on verra un peu plus loin dans cette heure partagée ensemble, c'est que si mes techniques d'inscription deviennent numériques et que j'utilise des outils numériques calculables et donc qui me renvoient en fait des conditions de lecture de l'écriture qui sont à la fois ce que j'ai écrit mais également ce qui a été recalculé, refaçonné par le support, eh bien je vais avoir une condition d'interprétation qui va être modifiée et donc à ce moment-là, j'aurai une manière de penser qui va être déplacée, reconfigurée par rapport aux techniques d'écriture, on va dire, plus classiques. Alors ça, ce sont deux exemples, mais en fait, c'est générique à toute expression de connaissance. C'est-à-dire que dès que l'humain sait parler, dès que l'humain sait s'exprimer, qu'il va recourir à des médiums d'expression, que ce soit le support phonique pour l'oralité, que ce soit des supports d'écriture pour l'écriture proprement parlée, des supports graphiques pour des inscriptions diverses et variées, eh bien, la théorie du support va agir dans la mesure où ce matériau qui me sert de véhicule à mon expression, eh bien, va avoir un effet retour sur mon expression. Et donc, dis-moi comment et à travers quel matériau tu t'exprimes, et je te dirai comment tu penses. Et c'est ça un petit peu la théorie du support, c'est que le support, c'est la raison du support est toujours la meilleure, c'est-à-dire que la raison du support, c'est le fait que le type de support va conditionner un type de pensée particulier, et donc par catégorie de support, j'aurai donc une rationalité, une manière de penser qui sera associée. Et c'est pour cela qu'on va avoir des gros concepts qui vont arriver. C'est-à-dire que par type de support, je vais les catégoriser, en fait, rassembler les types de supports en termes d'homogénéité, ceux qui sont homogènes entre eux. Et donc, on peut dire que, par exemple, par rapport au numérique qui nous intéresse essentiellement dans le cadre de ce cours, eh bien, on va avoir deux autres types de rationalité qui vont environner ce médium numérique. C'est premièrement ce que je peux appeler la raison orale, c'est-à-dire que, quand on s'intéresse à un contexte d'oralité, où c'est le médium d'inscription, c'est simplement le support phonique qui est évanescent, qui a le propre d'être non pérenne, eh bien, je vais avoir un certain type de rationalité. Quand je n'ai que la parole pour m'exprimer, pour penser, eh bien, je pense d'une certaine manière. Et lorsque je vais avoir l'écriture et l'invention de la surface d'inscription de l'écriture pour pouvoir codifier mes pensées, eh bien, j'aurai ce qu'on appelle une raison graphique, terme qu'on emprunte à Jacques Goudy, dont je crois que vous allez évoquer cet auteur plus tard aussi, Stéphane et Audrey. Et puis, in fine, le concept que je propose ici, moi, c'est la raison computationnelle, c'est-à-dire le fait de dire que quand je calcule et quand mes supports sont habités par le calcul, eh bien, ils vont me permettre de penser différemment. Et donc, cette manière de penser, je l'appelle raison computationnelle. Mais contrairement aux autres, c'est un peu une hypothèse de travail, puisqu'on est en train de vivre la révolution du numérique. Et donc, la raison computationnelle, c'est plus un programme de recherche qu'un constat dont on va essayer de cerner la meilleure description. Là, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut mettre en évidence que serait une raison computationnelle, comment est-ce qu'elle agit sur nous, et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut réagir à ce conditionnement qu'est le numérique. Alors, pour terminer sur les gros concepts, il y a celui de grammatisation. Je n'ai pas oublié que Stéphane m'a demandé d'en parler, donc je vais essayer de répondre à cette injonction, puisque vous savez comme moi qu'on doit répondre aux injonctions de Stéphane. Je ne souhaite à personne d'échapper aux injonctions de Stéphane, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, pour répondre à Stéphane, la grammatisation, c'est un concept assez important pour nous ici, qui est proposé par plusieurs auteurs. Donc, on le trouve chez Jacques Derrida, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'est l'écriture, l'archi-écriture, etc. On va aussi le trouver chez Sylvain Auroux, qui a fait un ouvrage qui, moi, m'a beaucoup inspiré, c'est « La révolution technologique de la grammatisation ». C'est en quoi l'écriture devient l'outil privilégié d'accès à la langue et à son observation et à son étude. Et puis, évidemment, moi, j'ai repris dans mes propres travaux cette notion de grammatisation. Alors, la définition que je peux en donner est la suivante. La grammatisation, c'est tout ce qui arrive à un médium d'expression lorsque on va considérer la manipulabilité de ce médium d'expression. Par exemple, je vais écrire. Eh bien, le fait d'écrire, ça va permettre de transcrire la parole sur un support d'écriture. Et donc, en effet retour, l'écriture va modifier ma manière de parler. Donc on va dire que l'écriture va grammatiser la parole. Grammatiser, c'est-à-dire qu'il va faire un effet retour du fait de la manipulabilité supérieure donnée par l'écrit par rapport à ce que je pouvais faire simplement de manière purement mentale et orale. De manière analogue, on voit que l'audiovisuel, ces dernières décennies, a connu une grammatisation du fait du numérique. Lorsqu'on est passé l'audiovisuel analogique, par exemple notre bonne vieille VHS des familles, eh bien cette VHS où on était un petit peu contraint de regarder de A jusqu'à Z, dans un défilement continu, parce que tout ce qui est interruption, retour, c'est assez pénible et coûteux avec la VHS, et bien avec un DVD, un Blu-ray, enfin bref, un support numérique, et bien je peux désormais naviguer dans le contenu, ce qui était quasiment impossible ou pénible avec la VHS. Et cette manipulabilité apportée par le support numérique, et bien va grammatiser l'audiovisuel, c'est-à-dire va faire qu'on ne va plus concevoir, écrire, consulter l'audiovisuel de la même manière. Et donc la grammatisation, c'est donc cet effet retour de la manipulation technique du support d'expression sur ce qu'on a à dire. Et donc c'est cette voie de retour qui est toujours intéressante dans la grammatisation, c'est que cette grammatisation, c'est la vengeance du support, c'est le retour du support, c'est-à-dire que le support va grammatiser ce qu'on lui confie. Donc deuxième raison, un deuxième slogan, le premier c'était dire « dis-moi comment t'écris, je dirai comment tu penses ». Le deuxième, dis-moi sur quoi t'écris et je dirai comment ça réagit sur toi et comment ça va transformer ta manière de penser. Donc voilà en quelques mots les présentations de ces gros concepts que sont théorie du support et grammatisation.
On peut déduire qu'il doit exister un rapport entre l'histoire des techniques, l'histoire de la technologie et l'histoire de la pensée humaine.
Eh bien, évidemment, puisque nous venons de dire que techno-économie, socio-économie et analyse des techniques sont des branches extrêmement proches de la même discipline. L'histoire des peuples nous est d'ailleurs, pour certaines périodes, connue à peu près que par les techniques. Toute l'archéologie et la préhistoire sont fondées pour la plus large part sur le témoignage que l'homme peut avoir laissé de ses techniques sous forme d'outils, par exemple, ou sous forme de produits façonnés, alors que sur ses institutions sociales, par exemple, nous ne savons rien. Et si on se reporte au monde vivant, il est évident aussi que comprendre une société humaine en se dispensant de saisir ses techniques, c'est absolument vain.
Alors c'était un extrait du documentaire Le Point sur la technologie et donc on a entendu André Leroy-Gourhan, c'était en 1967. On reviendra un petit peu, on reparlera très, très rapidement de Leroy-Gourhan juste après. Audrey Garance, avez-vous des questions pour Bruno ?
Eh bien, écoute Stéphane, je vais essayer de rebondir sur ce que l'on vient d'entendre. Garance, bien sûr, tu n'hésiteras pas à poser tes questions au cours de l'émission et puis dès que tu le souhaites. Alors simplement... Après cet extrait, donc André Leroy-Gourhan explique que l'on comprend notre histoire au travers du témoignage des outils techniques, au travers des traces qu'ils laissent et qui nous permettent de comprendre la société humaine telle qu'elle était organisée à un moment donné dans le passé. Et puis qu'il est vain d'essayer de comprendre une société humaine sans s'intéresser à ces techniques. Alors les travaux d'André Leroy-Gourhan, de Gilbert Simondon, de Jacques Derrida ont été synthétisés et poursuivis par Bernard Stiegler. Et puis l'ensemble de ces travaux a constitué le noyau de la thèse pour technologie anthropologiquement constitutive et constituante. C'est une thèse qui a émergé à Compiègne et puis qui structure une partie des recherches du laboratoire COSTEC de l'UTC. Selon le texte de Pierre Steiner, philosophie, technologie et cognition, état des lieux et perspectives, et puis l'article de Stéphane qui en propose une synthèse sur le site azouimet.fr. Alors, je parle donc de la thèse TAC puisque vous le retrouverez sur le support sur librecours.net et puis bien sûr qu'il y a un lien entre la thèse TAC et puis la théorie du support de Bruno Bachimon. Mais Bruno, est-ce que vous voudriez bien préciser ce rapport qui existe entre la théorie du support et puis la thèse TAC qui est au cœur des travaux aussi qui sont menés à l'UTC?
Oui, en fait, pour le dire de manière simple, je dirais que la théorie du support est une déclinaison possible de la thèse TAC. La thèse TAC, c'est le fait de dire que toute anthropogénèse est une technogénèse, c'est-à-dire que l'humain devient humain à partir du moment où se dote d'une technique. Donc c'est en cela que la technique est anthropologiquement constitutive, c'est-à-dire que l'hominisation passe par l'invention de la technologie. Et donc l'humain n'a pas toujours été humain, et l'humain devient de plus en plus humain, si j'ose dire, parce qu'il se dote d'une technique. Alors évidemment, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que ce n'est pas une notion de progrès continu. Par contre, il y a une notion de cumulation, d'accumulation. C'est-à-dire que c'est très rare qu'une civilisation se libère d'une technologie pour revenir à un niveau antérieur. Il n'y a quasiment pas d'exemple, en tout cas très rare, de civilisation qui a renoncé à une avancée technologique. Donc il y a bien un phénomène cumulatif, mais ce phénomène cumulatif n'est pas forcément un progrès. On connaît bien aujourd'hui avec tous nos débats sur les transitions écologiques et transitions technologiques qui seraient associées. Néanmoins, ça veut dire que l'histoire humaine est avant tout une histoire des techniques. Et pour rebondir sur parce que l'extrait de Leroy-Gourhan, qui est très bien choisi d'ailleurs, merci pour ce choix éclairant et éclairé, c'est que on voit bien que La technique, c'est la mémoire de l'humain. Hein. Qu'est-ce qui fait que l'humain a quelque chose à nous léguer ? C'est parce que ça a été resté inscrit sur des objets techniques. Et attention, la technique, ce n'est pas uniquement les techniques comme les centrales nucléaires, le courant électrique, ce n'est pas uniquement les techniques du geste, les techniques de l'énergie, c'est également les techniques de l'information, les techniques de l'écriture, c'est-à-dire les technologies culturelles et intellectuelles. Et donc, lorsque le roi Gourand dit qu'il faut s'intéresser aux techniques, eh bien, il a fait un très très beau livre qui s'appelle « Le geste et la parole », où on voit très bien que, évidemment, la technique fait également partie de nos mécaniques oratoires, de nos supports de la parole et d'expression. Et donc, si on veut connaître notre culture du passé, eh bien, il faut savoir techniquement eh bien, comment déjà elles géraient leur environnement culturel, et surtout ce que l'on sait d'elles, ben, c'est ce qu'elles nous ont laissé à travers les traces techniques de la culture, c'est-à-dire les documents en général, ou les vestiges monumentaux, lapidaires, divers et variés, etc. C'est-à-dire que même des activités les plus éthérées, qu'on estime les plus émancipées de la technique, sont évidemment habitées de techniques. Hein, pour aller terminer sur un exemple caricatural, c'est de la philosophie. Eh bien, la philosophie est en grande partie une fille de l'écriture, et les philosophes n'auraient pas grand-chose à dire s'ils ne savaient pas écrire.
Merci Bruno.
Merci Bruno. Et donc, eh bien, je te propose, avant de nous revenir sur l'écriture en troisième partie pour la raison graphique, peut-être de nous parler rapidement de raison orale.
Tout à fait, avec plaisir, mon cher Stéphane. Parce que, effectivement, c'est peut-être un peu paradoxal de parler de théorie du support vis-à-vis de l'oralité, parce qu'on aura l'impression que l'oralité, c'est précisément ce qui n'a pas de support. Il n'y a rien qui va supporter la parole, puisque, comme disaient nos aïeux latins, verba volant, scripta manent. Et donc, le propre des paroles, c'est des verba, c'est de volante. C'est qu'elles volent. Elles, sitôt proférées, sitôt évanouies, sitôt oubliées. D'ailleurs, nos aïeux latins disaient ça, non pas pour vilipender l'oralité, mais pour prémunir contre l'écriture. Parce qu'à partir du moment où vous savez écrire, les écrits restent, et donc ils peuvent être retenus contre vous. Hein. Et donc, lorsque vous êtes un brave républicain romain du 1er siècle, par exemple, avant notre ère, eh bien, un romain, qu'est-ce qu'il fait au 1er siècle avant notre ère? Il complote. Hein, c'est normal, c'est une activité sociale comme une autre. Et donc, évidemment, les polices de l'époque sont en train de vous traquer, et donc il vaut mieux parler entre soi, entre comploteurs, que laisser des traces écrites qui peuvent être récupérées et tomber dans les mains de qui il ne faut pas, et donc vous amenez certains désagréments. Donc l'oralité serait ce qui n'a pas de support. Alors en fait, évidemment, si je vous dis ça, c'est que ce n'est pas le cas, il y a bien un support dans l'oralité, et ce support, par contre, il est particulier. C'est l'environnement phonique, c'est-à-dire sonore. C'est l'air, hein, c'est la vibration de l'air qui permet la transmission du signal oral et qui est précisément le support qui nous sert à nous exprimer et à communiquer. Et évidemment, le problème, c'est que c'est un signal et donc il n'existe que le temps de sa transmission. Et donc, il n'est pas pérenne, il ne donne pas lieu à une inscription, c'est-à-dire ce qui serait fixé sur un support permanent et pérenne. Du coup, comment gérer l'effet retour de cette transmission orale de signal sur nous qui parlons et nous qui écoutons? Eh bien, la médiation va passer par le corps, hein, c'est-à-dire que l'autre support de l'oralité, en dehors du médium phonique, eh bien, ça va être le corps. Les antiques parlaient d'ailleurs de manière avec une belle formule du corps éloquent, c'est le corps qui parle, mais c'est aussi le corps écoutant, et le corps remémorant, hein, qui se souvient de ce qu'il a entendu. Mais de ce fait-là, évidemment, on va configurer le contenu de manière qu'il soit facile à incorporer, hein, incorporer dans sa mémoire, incorporer pour sa restitution orale, pour la gestualité éloquente. Et donc, quelles sont les manières de configurer un contenu lorsqu'on veut l'oraliser et le retenir par sa mémoire corporelle? Eh bien, les antiques, les médiévaux avaient accès à l'écriture, certes, mais il était encore rare et cher avant l'imprimer. Eh bien, comment est-ce qu'on s'y prenait? Ben, tout simplement en ayant une forme d'oralité qui est celle de la narration. Quand on ne sait pas écrire et qu'on a des choses à se dire, eh bien, on se raconte des histoires. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est la manière la plus simple de pouvoir organiser le contenu pour pouvoir non seulement le verbaliser, mais l'entendre et le retenir, et de restituer par la suite. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle narration. On va avoir une narration qui va avoir une configuration linguistique particulière. Elle va s'appuyer, par exemple, sur la versification, la scansion. Hein. Pour nous autres qui sommes un peu plus âgés, nous avons jadis scandé à l'école. Hein. Vous avez fait la scansion soit du français, de certains poèmes, ou du latin, où on apprenait à réciter les vers latins en respectant la scansion, qui n'est pas uniquement un effet esthétique, c'est tout simplement un rythme verbomoteur qui permet de mémoriser le contenu. Alors, ça, c'est l'outil hein, nécessaire, c'est-à-dire je parle, et pour pouvoir parler et retenir, je raconte des histoires, et pour que ces histoires soient faciles à incorporer de manière mémorielle, eh bien, elles sont versifiées avec une prosodie particulière, une scansion, de manière à ce que lorsque je récite, c'est mon corps qui récite, et mon esprit s'exprime à travers mon corps qui restitue dans son rythme eh bien, le contenu à, qui a été mémorisé et qui a restitué. Mais du coup, ça donne quoi en termes de raison ? Comment pense-t-on quand nous pensons avec ces outils ? Eh bien, on pense de manière également simple par rapport à cela, c'est qu'on va penser le monde sous forme de grands récits, c'est-à-dire on dit que la narration est le support de la mémoire orale, eh bien la raison orale va être une raison narrative, c'est-à-dire qui va gérer son rapport au monde à travers des récits structurants, ce qu'on appelait souvent les mythes, hein, avec souvent une condescendance de la modernité pour les âges passés, mais en fait les mythes c'est très sérieux, hein. Les mythes c'est une manière de comprendre son insertion dans le monde et de raconter le monde dans lequel nous sommes plongés et le rôle que nous avons ou que nous n'avons pas dans ce monde. Donc on va retrouver la Théogonie d'Hésiode, par exemple, toutes les grandes populations, dont une culture, une civilisation du passé, dont nous avons des traces écrites par les premières transcriptions des mythes, eh bien c'est des mythes qui sont des histoires, l'épopée Gilgamesh, la prose Edda des Vikings, etc. On a dans tous les cultures eh bien, ce souvenir d'une culture orale qui s'exprimait à travers de mythes fondateurs, organisateurs du réel. Alors évidemment, nous sommes toujours, nous, habités de la narration. Je vois Stéphane qui s'impatiente. On est toujours habités par la narration aujourd'hui parce que même si nous avons d'autres techniques d'expression, bien évidemment, on continue à se raconter des histoires dans tous les sens du terme, d'ailleurs. On se raconte des histoires parce qu'elles sont vraies, puis on se raconte des histoires parce qu'on les invente, et ça donne des fariboles et autres bilvesées que nous pouvons échanger autour de micros. Voilà, je rends la parole à Stéphane pour... qui peut enfin reprendre sa respiration, tellement il était devenu tout rouge d'impatience.
Non, je ne m'impatiente pas, Bruno, c'est juste que tu nous captives tellement que j'ai peur que, tu vois, on reste bloqué sur la raison orale et qu'on n'aille pas sur la suite.
Kant parle de la synthèse, de ce qu'il appelle la troisième synthèse de l'imagination transcendantale. Et il montre que cette synthèse est une synthèse qui monte ce qu'il appelle des synthèses d'appréhension, c'est-à-dire de perception, et de reproduction, c'est-à-dire d'imagination. Dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Le temps du cinéma, j'ai assez longuement analysé cette déduction transcendantale pour essayer de montrer que si Kant peut faire cela lui-même, c'est parce qu'il a une table de montage qui s'appelle l'écriture, qu'il a écrit ce livre et qu'en écrivant ce livre, il a pu contrôler ses processus de rétention et de protension et à partir de là, produire et réaliser son propre rêve, le rêve d'une critique de la raison pure.
Alors, on vient d'entendre la voix du philosophe Bernard Stiegler lors d'un cours de PhD, donc c'était la phénoménologie des objets temporels audiovisuels qu'il donnait à l'UTC en 2015. Alors, Bernard Stiegler a expliqué que Kant donc, a pu écrire sa critique de la raison pure parce qu'il disposait de l'écriture pour contrôler ses processus de rétention et de protension. Alors, il est impossible de plonger dans ces concepts de Bernard Stiegler maintenant en quelques mots, mais je vais essayer simplement d'éclaircir très vite que la rétention, on peut dire que c'est ce qui est retenu et recueilli par la conscience, et puis que la protension, c'est une forme de projection, de désir de l'avenir qui n'est possible qu'avec un temps d'attention et de rétention. Alors, Bruno, vous aviez expliqué un petit peu plus tôt que la rationalité de la raison orale se reposait sur les structures et les récits, et puis des rythmes qui en facilitent la mémorisation. Bernard Stiegler nous parle aussi de concepts qui font référence à la mémoire. Donc, je voudrais vous poser une question à propos de la mémoire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'écriture, nous n'avons plus besoin de retenir les informations, mais seulement de savoir où aller les lire ?
Ah, c'est une grande question, effectivement. Ça renvoie à des grands débats sur la calculette à l'école. Est-ce qu'il faut avoir une calculette ou savoir compter soi-même au calcul mental, etc. Alors évidemment, ma réponse sera ni oui ni non. Hein, c'est-à-dire que ça serait trop facile sinon. Alors effectivement, l'écriture, pour rebondir sur l'extrait de Bernard Stiegler, va permettre d'externaliser via un support matériel qui est celui de la feuille de papier et du stylo, etc., ce que je faisais jusqu'alors mentalement. Hein, ce qui est intéressant dans la citation de Kant que Bernard mobilisait ici, c'est que, effectivement, quand je veux penser quelque chose, eh bien, j'ai besoin de ce qu'il appelle ces trois synthèses. Hein. Par exemple, je veux appréhender une mélodie. Hein. Eh bien, pour appréhender une mélodie, eh bien, il faut entendre une succession de sons. Sauf que le son, il y a celui que j'entends, et puis, du coup, si j'entends un certain son, bah, ceux d'avant, je ne les entends plus, et ceux d'après, je ne les entends pas encore. Donc, écouter une mélodie, en fait, on s'aperçoit que, quand on détaille, ça ne veut pas dire grand-chose. Écouter une mélodie, c'est quoi exactement ? C'est quel son ? Donc, ça veut dire que si je veux appréhender la mélodie, il faut que je retienne les sons que j'ai entendus pour entendre le son actuel, et je vais anticiper le son à venir. Et c'est comme ça qu'à la fin, j'aurai entendu une mélodie. Donc l'appréhension de la totalité de mélodie, ça va être la capacité de retenir ce que j'ai déjà entendu. La synthèse et la reproduction. La reproduction, et là, ça sera la rétention qui va me permettre de retenir ce que j'ai entendu. Mais du coup, retenir ce que j'ai entendu, c'est-à-dire qu'il va sélectionner. J'ai entendu le son, mais je n'ai pas entendu le crachouillement du micro. Je n'ai pas entendu le verre qui est tombé de la table. Donc ça veut dire que je vais avoir une sélection. Et donc la synthèse de la reproduction, qui est la troisième synthèse chez Kant, après l'appréhension et la reproduction, c'est le fait de pouvoir sélectionner parmi le passé ce qui va faire partie de mon écoute actuelle. Et donc c'est précisément cela qui va être externalisé grâce à l'écriture. L'écriture va être un moyen d'externaliser ce processus de appréhension, reproduction et sélection. Et donc lorsque je vais avoir cette synthèse externalisée, évidemment, ce que va me permettre cette synthèse externalisée, c'est de soulager ma mémoire, mais par contre, ne va pas du tout soulager mes mécanismes de sélection. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours sélectionner les éléments à partir de l'écriture qui m'est présente, les éléments que je vais revenir, je vais mobiliser. Hein. On a tous vu quand on doit faire un ouvrage ou un article à partir de notes qu'on a prises, il faut sélectionner nos notes. C'est-à-dire savoir que j'ai mes notes qui sont sur la table, ça ne suffit pas de savoir laquelle je vais devoir mobiliser plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que, comme dit Platon dans sa critique de l'écriture dans le Phèdre, eh bien, il ne faut pas confondre la mémoire morte qui est externalisée avec la mémoire vivante qui doit se réapproprier le contenu et en faire une synthèse vivante. Et donc, on retrouve un dialogue qu'on a très présent chez Derrida, c'est entre le mort et le vif. Hein, et avoir un stock d'écriture externalisée, ça ne donne pas une présence à soi de cette écriture. Et donc, il y a toujours nécessité à ce qu'il y ait une réappropriation, une remobilisation, comme si on était en train de le relire et de le synthétiser dans notre exercice mental du moment pour pouvoir après eh bien, reconstruire à partir de là et rentrer dans la mécanique de la protension. Donc évidemment, la lecture et l'écriture soulagent la mémoire. On a beaucoup plus de matériaux que si on devait faire confiance uniquement à notre mémoire. En revanche, attention, avoir l'adresse, savoir où est-ce qu'il faut aller chercher, ça ne fait pas l'économie de la sélection et de la réappropriation. Sinon, vous tombez sur la personne insupportable en soirée qui dit qu'il vous dit quelque chose, va consulter Google pour vérifier. Ce n'est pas parce qu'elle est savante, hein, elle est savante d'illusion et insupportable à l'usage, comme disait Platon, parce qu'elle n'a pas de connaissance, elle n'a simplement qu'une connaissance d'accès. Mais quand on lui demande si elle a compris ce qu'elle a lu, eh bien, vous pouvez être des fois assez surpris du résultat.
Merci Bruno pour cette petite image qu'on a tous pu activer. Peut-être que du coup à partir de là tu peux enchaîner sur la raison graphique.
Oui, bah, volontiers, surtout que j'ai déjà un petit peu parlé puisque grâce à la question de Dresse sur Bernard Stiegler, eh bien précisément ce que j'ai décrit c'est ce que fait l'écriture à l'oral. Qu'est-ce que va faire l'écriture à l'oral ? C'est de précisément externaliser le mécanisme mémoriel et cognitif propre à l'oralité. En gros, au lieu de souvenir avec une mémoire corporelle, de me souvenir du contenu grâce à ma mémoire corporelle, je vais pouvoir m'adosser à une mémoire externalisée qui est le document écrit. Mais évidemment, les modalités cognitives et mnémoniques qui vont être associées à l'écriture vont être totalement différentes de celles de l'oral. Tout à l'heure, je vous parlais de configuration du contenu pour qu'il soit facile à retenir. De manière orale. Je parlais de versification, je je parlais de prosodie, je parlais de rythme verbomoteur. Pourquoi ? Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est d'un objet temporel, c'est un récit. N'oubliez pas, le son, c'est une transmission d'un signal. Il n'existe que le temps de la transmission. La mélodie que j'évoquais tout à l'heure, c'est un objet temporel. Je n'entends que le son actuel. Je n'entends plus les sons passés, je n'entends pas encore les sons à venir. Donc il me faut une mécanique temporelle de retenue. Et ça, le récit, le rythme verbomoteur, avec notion de rythme, est précisément cette solution temporelle pour retenir un objet temporel. Avec l'écriture, je vais complètement modifier cette contrainte. Pourquoi ? Parce que quand je vais écrire, je vais projeter un contenu temporel dans une surface spatiale bidimensionnelle. Et donc à ce moment-là, le regard de l'esprit qui va pouvoir naviguer dans la feuille de papier ne va pas être soumis au rythme de la succession temporelle du contenu. C'est-à-dire ce que je vais voir sur la surface de papier ne sera pas identique à ce que je vais entendre. Pourquoi ? Parce que ce que je vais entendre est soumis à l'ordre temporel de la succession. Et donc, je dois entendre le mot actuel, mais je n'entends plus les mots passés, pas encore les mots futurs. Quand vous écrivez, ce même contenu se retrouve projeté simultanément. Tous les mots sont là, en même temps, sur la surface de papier. Et donc, à ce moment-là, si vous, il vous prend l'envie de vouloir commencer par la fin, vous pouvez, le contenu ne va pas disparaître, il sera toujours là et disponible pour une nouvelle lecture. Par contre, si jamais nos auditeurs voudraient écouter à l'envers ce que je suis en train de dire, bien, ça sera tout simplement impossible parce que s'ils veulent m'écouter, ils doivent se synchroniser sur le flux de ma parole, qui est en plus un petit peu rapide, hein, donc ils doivent se synchroniser sur le flux de ma parole pour pouvoir entendre, intelliger ce que je dis. Avec l'écriture, non, on va prendre son temps, on peut faire des suspensions, on peut y revenir, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'écriture va apporter deux choses que l'oralité ne fait pas. Elle va apporter un pouvoir de synthèse. On a déjà vu le mot avec Kant, cette notion de synthèse. Synthèse, étymologiquement, ça veut dire poser ensemble. Syn, ensemble, thèse, poser. Le fait de poser ensemble, c'est-à-dire que l'écriture va poser ensemble ce qui est jamais ensemble d'un point de vue oral, c'est-à-dire qui est purement successif. Deuxième chose, si c'est posé ensemble, eh bien on peut le voir ensemble. Et donc ce que l'écriture va apporter, c'est outre son pouvoir de synthèse, c'est une synopsis, le voir ensemble. Et donc le regard de l'esprit va pouvoir voir ensemble ce qui est sinon successif temporellement dans l'oralité. Et donc à partir de là, eh bien je vais pouvoir mobiliser de manière différente le contenu et surtout l'agencer et le configurer de manière à ce qu'il soit plus intelligible pour le regard de l'esprit qui va lire que simplement configuré pour une remémoration orale et narrative.
Le progrès technique consiste au contraire en ce que l'objet doit se diviser, se dichotomiser. Une part en lui, une de ses bandes latérales, s'adapte au monde extérieur, l'autre à l'utilisateur. Et à ce moment, une partie de l'objet a tendance à se pérenniser, l'autre change ou s'use et est destiné à être labile. Si l'on traite l'objet au moment où il devient dichotomique comme un objet où tout s'use en même temps et doit être jeté, il y a une erreur culturelle fondamentale. Par exemple, on change d'automobile dès qu'elle est démodée. Et là est le mal. Le mal, c'est le fait qu'à une époque déterminée, l'objet ne soit pas connu selon ses lignes essentielles, qui sont principalement ses lignes temporelles, ses lignes évolutives temporelles, ne soit pas connu comme il devrait l'être par les utilisateurs. Ce qui pousse d'ailleurs les producteurs, volontairement ou involontairement, à envelopper l'objet technique d'une publicité ou d'apparence qui camoufle sa réalité essentielle.
C'était un extrait de Gilbert Simondon de 1968 qu'on pourrait trouver, je pense, assez actuel. Et donc, c'est un extrait d'un documentaire qui s'appelle « Entretien sur la mécanologie ». On aura deux autres extraits de Simondon ensuite.
Alors, dans cet extrait, on a entendu Gilbert Simondon nous parler des lignes évolutives temporelles de l'objet technique qui nous seraient donc camouflées, ou en tout cas que nous ne chercherions peut-être pas assez à comprendre. Alors, si j'essaie de faire un parallèle avec ce que l'on a entendu juste avant de la bouche de Bruno Bachimon, est-ce que cela signifie que comprendre les lignes temporelles inscrites dans l'objet technique nous permettrait à la manière de la synthèse qui nous permet de voir ensemble simultanément ce qui est dispersé dans la succession du discours et donc qui nous permet de comprendre de nouvelles relations. Est-ce que donc comprendre les lignes temporelles inscrites dans l'objet nous permettrait de voir éventuellement d'autres usages possibles des objets techniques, par exemple lorsqu'ils s'usent ?
Oui, bonne question encore une fois. Alors, j'aurais envie de réagir de deux manières contrastées sur l'extrait de Gilbert Simondon. C'est-à-dire que là où je ne le suivrais pas complètement, c'est que par essence, les techniques, c'est une circonstance, vous allez me dire, avancent masquées. C'est-à-dire que souvent, la technique a tendance à cacher son mécanisme interne pour pouvoir se fondre dans la finalité d'usage à laquelle on l'a destinée. On va le voir tout à l'heure parce qu'on va aborder la raison computationnelle. La grosse difficulté qu'on a avec le computationnel, par exemple, c'est que le calcul ne se voit pas. Le calcul ne se donne pas tel qu'il est. On voit toujours le résultat du calcul. Quand vous avez, par exemple, votre brave fichier Word qui vous sert à exprimer vos textes, alors je sais bien que Stéphane n'utilise pas Microsoft, hein, donc utilise d'autres outils, mais nous autres, simples mortels qui sommes encore vautrés dans les turpitudes du capitalisme contemporain, eh bien, nous utilisons parfois, je le confesse, Word. Et donc, qu'est-ce que me montre Word ? Il ne me montre pas les calculs qu'il fait, il me montre le résultat de ses calculs. Le calcul reste toujours masqué. Et toute la difficulté, c'est que plus on va trouver que l'outil est performant, plus en fait, on va le juger sa performance à sa capacité à masquer ses turpitudes techniques internes. Et en même temps, aussi, dans la mesure où une bonne manière de comprendre la pseudo-évidence que va nous montrer le résultat de la technique, c'est de pouvoir l'inscrire dans sa généalogie. C'est-à-dire que si on prend le texte de Word, eh bien les textes n'ont pas toujours été tels que Word le montre. C'est-à-dire que les textes ont une histoire, c'est des objets techniques également, et qui, avant d'être soumis au calcul, ont été soumis à l'écriture, hein, telle qu'on pouvait l'avoir. Et donc avoir ces lignes temporelles, eh bien c'est précisément ce qui va nous permettre de déconstruire la pseudo-évidence de la fonctionnalité technique pour pouvoir l'inscrire dans une durée où on va voir que d'une part, ces techniques ont une histoire, elles n'ont pas toujours été telles qu'elles sont, et surtout, on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire, le grand principe de la déconstruction, c'est qu'en déconstruisant temporellement la genèse de l'objet technique auquel on est confronté, ça nous permet de comprendre qu'il y a eu des choix qui ont été faits, des choix motivés, des fois bien pensés, des fois qui peuvent nous paraître être effectivement, en revanche, arbitraires, par exemple. Et cette déconstruction permet de restituer la complexité de l'objet dans son devenir. Alors, déconstruction, ça ne veut pas dire destruction, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause forcément l'objet technique, etc. Mais ça permet, par contre, de le problématiser, de contextualiser et de savoir qu'il n'y a pas de nécessité intrinsèque à l'acceptation de la technique. On peut toujours déconstruire sur le fait qu'on aurait pu faire autrement. Est-ce qu'il faut faire autrement ? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est un débat qui est l'heure du politique, hein, c'est l'heure de la décision. Mais en revanche, il n'y a pas de nécessité technique intrinsèque qui ne pourra pas être déconstruite.
Merci Bruno pour ce complément. Et donc, eh bien, on poursuit la découverte avec donc maintenant la raison computationnelle. Je ne sais plus qui est à l'origine de ce concept, donc je te redonne la main.
Ah bah ça c'est moi, donc du coup je peux le dire. Là pour une fois, je vais parler de bois et pas seulement des autres. Hein, vous verrez, c'est la partie la moins intéressante en fait, qui est normale. Alors, raison computationnelle, bah, comme je l'ai dit à l'instant, la difficulté de ce concept est que précisément le computationnel, le calcul, ne se voit pas. On l'envisage qu'à travers ce qu'il modifie. Hein. C'est-à-dire que le propre du calcul, c'est une idéalité, les 0, les 1, ce qu'on va manipuler, etc. Ce sont des choses qu'on ne peut pas cerner directement, sinon parce qu'il n'est pas du calcul, c'est-à-dire les machines qui vont le faire. Les machines sont des machines physiques, qui ne sont pas forcément des calculs en tant que tels. Et on va envisager ces calculs à travers les résultats qu'ils ont produits. Donc, une bonne manière de caractériser le computationnel, c'est déjà de voir ce qu'il change dans le graphique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ce que le graphique apportait un pouvoir de synthèse, de représentation, et du coup, ça va se traduire par des modes de raisonnement qui vont être particuliers à cette capacité de représenter graphiquement des structures. Lorsque vous savez écrire, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez lire autrement que ce que vous avez parlé. Hein. Vous avez dit et énoncé un discours, là, vous allez l'écrire. Vous allez pouvoir le relire dans un ordre arbitraire, c'est-à-dire à votre propre discrétion. Donc vous allez pouvoir, par exemple, prélever des mots du contenu pour en faire des listes. En gros, quand vous savez écrire, vous faites des listes. Mais quand vous faites des listes, vous faites quoi? Vous faites des catégories, c'est-à-dire que vous commencez à catégoriser le monde. Mais vous pouvez aller plus loin, vos listes, vous pouvez les rassembler de manière systématique, en faire des tableaux, par exemple. Les tableaux, c'est très intéressant parce que les tableaux, c'est un système. Et donc, même les cases vides d'un tableau, rappelez-vous Mendeleïev, les cases vides ont un sens. Pourquoi? Parce qu'elles ont un sens du simple fait de leur position dans le tableau. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas oral. On ne sait pas faire un tableau à l'oral. Hein. Même les listes à l'oral, on a l'effet qui s'appelle la parataxe, hein, mais qui n'est pas exactement la même efficacité que la liste, parce que la liste écrite, on peut la lire à l'endroit et à l'envers. La parataxe orale, non, on ne peut pas la faire à l'endroit et à l'envers. On la lit dans son ordre. Et puis, dernière chose qui est propre au graphique, c'est l'écriture, et ce qui est une invention totalement géniale, c'est qu'on fait des écritures qui ne veulent rien dire, hein, c'est-à-dire qui ne peuvent pas s'oraliser. Hein. On fait des formules, les formules magiques, hein, Harry Potter, Oculum Reparo, hein, mais vous avez également des formules moins magiques, comme les mathématiques, les langages de programmation, etc., où là, vous allez avoir des écritures qui ne font référence à aucun langage parlé. Les mathématiques ne se parlent pas. On parle des mathématiques, les mathématiciens parlent entre eux, mais ils écrivent des mathématiques. Hein. Les mathématiques orales n'existent pas. Hein. Il y a un théorème pour exister, il doit être écrit et démontré. Donc c'est une invention absolument extraordinaire d'avoir des écritures qui ne veulent rien dire, parce que justement ce sont des écritures qui écrivent, mais qui ne veulent rien dire. Et du coup, le fantasme, hein, c'est d'avoir une écriture qui s'autonomise par rapport à la langue, et du coup par rapport à la pensée, voire avoir une écriture qui s'écrit toute seule. Ça a été le rêve de Hilbert en voulant refonder les mathématiques comme étant une écriture qui peut s'auto-écrire via des systèmes formels, via des règles de réécriture. Et ça, bah, c'était l'invention du calcul. Le calcul, c'est une écriture qui s'écrit toute seule parce qu'on a un programme qui ne veut rien dire et qui nous permet de manipuler des symboles qui ne veulent rien dire. Et le fait que ça ne veut rien dire et que les règles qui manipulent ne veulent rien dire non plus, bah ça veut dire que c'est tellement bête que même une machine pourrait s'en saisir, et bien justement, on délègue à la machine le fait de manipuler ses écritures. Donc le calcul, c'est en fait l'écriture quand on lui enlève son sens et qu'on en confie l'écriture, la manipulation à la machine. Donc le numérique et le computationnel, de manière générale, c'est le règne du non-sens, hein, c'est le règne de la sémantique, c'est-à-dire L'apostrophe, asémantique, c'est-à-dire de le signe dépourvu de signification, ce qui du coup n'est plus un signe, hein, parce qu'un signe qui ne signifie pas, ce n'est pas un signe, hein, c'est un machin qu'on a mis, qu'on a codifié dans un substrat pour qu'il soit manipulé par des mécanismes, hein, de transformation. Donc c'est ça qui change tout, parce que du coup, vous avez vu, l'écriture a transformé l'oral en le rendant synthétique. Eh bien, le numérique va transformer l'écriture en lui enlevant son sens et en disant que la manipulation ne vient plus d'un esprit pensant écrivant, la manipulation vient d'un calcul aveugle, comme disait Leibniz, c'est-à-dire de transformation aveugle des symboles. Alors du coup, qu'est-ce que ça va changer, hein? Qu'est-ce que ça va modifier par rapport à notre geste d'écriture qui était de faire des listes, de faire des tableaux, de faire des formules? Eh bien, ça va modifier certaines choses, notamment sur le fait qu'on va utiliser le calcul pour réduire une certaine complexité qu'on avait à l'écriture, parce qu'on va pouvoir déléguer à la machine via la perte de sens que l'on va faire, c'est-à-dire la formalisation. Alors, le premier geste, c'est de se dire, ben voilà, lorsque j'écris, je sais faire des listes, des tableaux, des formules, qu'est-ce que le calcul va faire lorsque j'ajoute le calcul à ces listes, tableaux et formules? Alors, une liste à laquelle je rajoute du calcul, ça devient quoi? Bah, ça devient un programme, tout bêtement. Un programme, ce n'est jamais qu'une liste, hein, qui, lorsque vous la confiez à l'ordinateur, s'exécute, c'est-à-dire devient une dynamique de manipulation autonome. Si je prends le tableau auquel je rajoute du calcul, eh bien, ça veut dire que chaque cellule du tableau devient calculée. Ça veut dire qu'elle est calculée de manière interne via cette dynamique aveugle que j'évoquais tout à l'heure. En gros, ça devient un réseau. Et on connaît bien ce qu'est un réseau parce que Internet, qu'on utilise tous les jours, eh bien ce réseau de réseaux qui masque des calculs pour pouvoir transmettre des contenus à tous les nœuds de ce réseau. Et enfin, on peut avoir également la notion de formule qui, lorsqu'on rajoute un calcul, eh bien va donner en fait la notion de couche qu'on a en informatique, hein, qu'on connaît bien, c'est-à-dire d'avoir un niveau autonome d'exécution indépendamment des couches sous-jacentes ou des couches supérieures. Donc ces trois structures-là sont là pour un peu transformer notre rapport à l'écriture, puisque désormais, lorsque l'on sait calculer, eh bien, on ne pense plus à travers une écriture qui est vivante, comme le disait Platon, c'est-à-dire laquelle on pense en l'écrivant, mais on va la rendre calculable et en déléguant l'exécution à une machine. Le réseau, il y a une complexité de propagation dans le réseau qui est déléguée à la machine. Et en même temps, c'est très important parce que d'une part, on peut déléguer à la machine et donc on peut lui faire endosser une complexité qui, pour nous, serait inaccessible, hein, serait infaisable pour nous. Alors, je ne sais pas où s'il faut que je m'arrête maintenant, Stéphane, pour faire un temps de respiration.
Allez, on va respirer autant que faire se peut avec Simondon à nouveau.
Dans ces conditions, il y a une évolution de l'objet technique qui fait que les réalités culturelles doivent être aussi contemporaines que possible de la véritable nature de l'objet. Si elles représentent ce qu'était l'objet il y a 20 ans, elles conduisent à une consommation ostentatoire ou à une attitude erronée, finalement à une déception. Alors on charge l'objet technique, on en fait le diable au fond, on le charge de tout ce qui va mal dans la société, alors que ce qui va mal, ça n'est pas que l'objet technique soit le mal et fasse aller tout le reste de travers, c'est simplement que entre l'homme et la chose, il y a un hiatus, une incompréhension, une espèce de guerre.
Alors, je voulais cette fois poser une question à Stéphane. On va faire une petite pause pour laisser Bruno respirer un instant. Alors, je voulais vous poser, en fait, c'est une question qui pourrait s'adresser à tous les deux, à propos du noème du numérique. Alors, ça fait partie du cours en même temps. C'est vrai que le noème, donc ça fait référence au noème, ça a été de... merci de Roland Barthes, justement, j'avais le nom qui m'échappait, de Roland Barthes pour représenter la tendance de la photographie, dire que ça a été, alors le noème du numérique, ça a été manipulé, ça c'est donc Bruno Bachimon qui pose le noème du numérique ainsi, pour représenter cette tendance du numérique à fragmenter les contenus, les discrétiser et ensuite les manipuler indépendamment de tout sens. Et puis Stéphane, de ton côté, comme on peut lire sur ton site aswimet.fr, tu ajoutes une partie à ce noème pour en faire le noème suivant, ça a été manipulé et ça le sera à nouveau. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu veux dire par là ?
Alors, j'avais pas prévu de répondre à des questions. Moi, j'écoutais pas. J'étais juste en train d'organiser les déroulements. Le ça a été manipulé, effectivement, qui a été posé par Bruno. C'est vraiment l'idée, je pense, fondamentale. Et Bruno, tu pourras évidemment compléter, mais qui à mon sens est aussi liée à la raison computationnelle. Là, tu as plutôt parlé des structures en fait qui permettent de manipuler le contenu pour le penser. Mais je crois qu'il y a vraiment ce truc qui traverse, qui est que tout ce que l'on, tout ce à quoi on accède à travers des outils numériques, eh bien, comme tu l'as dit Bruno, c'est toujours le résultat d'un calcul, avec tout ce que ça implique. Alors encore une fois, tout ce que ça implique, c'est pas donné a priori, mais ça nous oblige en quelque sorte à le penser. Et puis il y a aussi, du coup, effectivement, l'idée qui est un peu la même, hein, mais que j'ai juste renforcée en disant, du coup, il y a aussi cette idée que ce que l'on va reproduire en retour et ce que l'on va recommuniquer en retour, eh bien, va aussi faire l'objet d'une manipulation. Et du coup, encore une fois, il s'agit pas de dire par là que le contenu est manipulé et que du coup, on ne peut pas accéder aux informations, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment, du coup, à prendre soin, à porter attention aux outils de manipulation, aux outils calculatoires que l'on utilise pour communiquer. C'était un petit peu l'idée générale. Eh bien, Bruno, tu peux compléter si tu veux. Je crois que notre plan est un peu parti en éclat, donc tu as la main pour reprendre la main sur ce que tu veux.
Mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque ça me permet de faire la transition avec des aspects que je voulais aborder, dans la mesure où, effectivement, les structures du numérique que j'ai évoquées, couches, réseaux et programmes, on repose sur cette manipulation du numérique. Alors pour le dire en synthèse, le numérique c'est le régime du manipulable. On peut dire que la notion moderne de calcul c'est le concept qui nous permet de définir la manipulation comme manipulation, c'est-à-dire indépendamment de tout usage, de toute signification de ce qui est manipulé. En gros, un calcul ça fait quoi ? Ça déplace des 0 et des 1 dans une surface, point. Ça ne fait rien d'autre. Et la seule question qu'on se pose, c'est que est-ce que ça s'arrête tout seul ou pas, hein, c'est le principe de la décidabilité de Turing. Et le calcul, ce n'est pas autre chose. Tout le reste, c'est des fariboles et des histoires racontées aux enfants pour les aider à les endormir ou leur donner des cauchemars. Donc, le deuxième point, c'est que si le calcul est cette manipulabilité, eh bien, va avoir plusieurs conséquences. Alors, il y a deux conséquences cognitives et culturelles qui m'intéressent. Alors, la première conséquence culturelle, c'est un peu ce qu'a évoqué Stéphane, c'est-à-dire que non seulement ça a été manipulé, mais ça va être manipulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on a affaire à des contenus qui sont toujours en permanente reconfiguration et manipulation. C'est-à-dire que contrairement aux règles de l'imprimé, qui nous avaient habitués à avoir des références fixes, vous savez, le fameux bon à tirer, l'exemplaire qui est déposé à la BNF, où en gros, dès que j'ai un exemplaire, je peux aller le comparer au bon à tirer ou à l'exemplaire du dépôt légal pour voir si j'ai le bon exemplaire. Et bien avec le numérique, ça devient très difficile, puisque le numérique, c'est toujours le résultat d'un calcul, et dès lors que je vais le consulter, je vais le calculer pour le rendre tout simplement affichable sur mon écran. Donc ça veut dire que je n'aurai plus jamais affaire deux fois au même contenu. J'ai toujours affaire à une variante calculée supplémentaire. Alors des fois, la variante est identique, mais des fois, elle ne l'est pas. Et donc, il va falloir avoir un régime culturel qui renoue avec ce que j'appelle l'économie de la variante, c'est-à-dire que, comme disait Rachid Defez, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve numérique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais affaire deux fois au même contenu. Pourquoi? Parce que les circonstances qui font qu'on va le reconsulter à nouveau vont faire qu'on va le recalculer à nouveau, et donc, qui dit recalcul, dit remanipulation, et étant aveugle, eh bien, elle peut être différente. Donc ça, c'est un premier élément culturel assez important, et on voit très bien dans notre usage du web, par exemple, eh bien, on n'a plus un régime de contenu qui est sous l'ordre de la référence, mais qui est désormais sous l'ordre de la variante. Ça, c'est un fait fondamental. Le deuxième fait, c'est le fait que le calcul est délégué. Et donc je vais prendre un exemple pour illustrer ce fait, c'est le fameux copier-coller. Le copier-coller, on est tous habitués maintenant à le faire en permanence. Hein. On prend le contenu et on va le copier avec un clic de souris et le recoller avec un autre clic. Pour la première fois, on a inventé une technique qui permet de copier sans lire. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez manipuler un contenu comme un bloc aveugle, une boîte noire, qui peut véhiculer d'un contenu à un autre. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce que ça permet de pouvoir construire les contenus comme étant des Lego, comme des briques qu'on va assembler. Et les techniques d'assemblage, c'est ce fameux copier-coller. Donc, on connaît tous, par exemple, en utilisant une librairie de programmation. Hein. Moi, quand j'ai fait ma thèse d'informatique jadis, eh bien, mes 30 000 lignes de code, je les écris avec mes blanches mains. Ben, aujourd'hui, plus personne ne fait ça. On a des librairies qui vous aident à codifier le contenu et vous recopier ou mobiliser les fonctions qui vous intéressent, vous les modifiez à la marge. On fait du copier-coller et votre objet et artefact informatique devient une espèce de boîte noire construite à partir de boîtes noires. On le voit très bien aussi dans le régime de lecture. La lecture, c'est, moi je le vois par exemple dans les cours avec les étudiants, quand on met des citations, ça devient des boîtes que l'on va manipuler et recopier. Mais personne ne rentre dans la boîte. La boîte noire reste noire. Elle ne devient jamais transparente. Ce n'est pas une glass box où on va essayer de voir, codifier et comprendre ce qui est dit. Par exemple, quand on fait une citation latine avec des mots très proches du français, souvent les gens ne font même pas l'effort de retrouver le mot français derrière le mot latin. Parce que c'est une boîte noire. On va faire un copier-coller à partir de là. Donc, ce copier-coller est en train de changer notre régime de lecture. On ne lit plus de la même manière, tout simplement parce qu'on va être capable de recopier sans lire. Alors, évidemment, ça donne énormément de possibilités nouvelles. La programmation a connu une explosion énorme du fait de cette facilité. Le fait de pouvoir échanger les contenus comme nous faisons sur le web, de pouvoir nous-mêmes nous auto-éditer en se recopiant, etc., c'est une possibilité du copier-coller. Mais en revanche, on a un régime de consommation du contenu qui n'est plus le même. On ne va plus avoir cette lecture patiente et longue de contenus imposants, comme la Gachefa, Garepay, par exemple, ou la critique de la raison pure, où là, ce n'est pas du tout une lecture de copier-coller qu'il faut avoir, c'est une lecture d'approfondissement qu'il faut mobiliser. Donc, on a ce régime cognitif qui vient rebondir sur ce régime culturel que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, d'une part, la variante, hein, qui est le régime du contenu, et puis, deuxièmement, la boîte noire, hein, qui est la logique de consommation du contenu du fait de cette facilité qu'est le copier-coller.
Alors, merci beaucoup Bruno. Alors j'ai une question d'Emmanuel, donc étudiante en WE1 qui tombe très bien. C'est une question qui te demande si on finit par tout déléguer à une machine, ne risque-t-on pas une régression de la cognition humaine alors que le progrès technique continue de s'améliorer? N'est-ce pas un problème, une sorte de paradoxe? Et y a-t-il une limite au progrès?
Excellente question. Alors effectivement. Ça pose un problème dans la mesure où il y a toujours cette tension que qui dit délégation doit toujours embrayer sur réappropriation. Je vais prendre un exemple qui est notre tableau Excel, par exemple. Le tableau, quel est le coup de génie du tableau? Le coup de génie du tableau, classification des éléments de bande LIF, hein. Vous avez tous les éléments qui sont proposés dans un même tableau qui s'offrent d'un même geste au regard de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une synopsis du tableau de bande LIF et donc vous voyez tout ce qu'il y a à voir. Et donc vous avez une vision globale du tableau. Et en même temps, le tableau est constitué de cellules qui chacune a une structuration locale. Chaque cellule du tableau de Mendeleïev a un rôle bien défini en fonction de son numéro atomique, etc., etc. Et donc le tableau, c'est une fantastique invention qui permet de gérer le local et global en même temps. Local et global en même temps. Vous avez une perception globale qui se décline sur le local et réciproquement. Maintenant, vous prenez le tableau Excel. Tableau Excel avec ses milliers de lignes, milliers de colonnes. Bien évidemment, la synopsis, vous ne l'avez plus. Donc vous avez l'apparence d'une organisation rationnelle, mais qui vous échappe totalement parce qu'elle échappe au regard de l'esprit. Et donc, il suffit de voir nos braves gestionnaires perdus dans leur tableau Excel pour comprendre que la raison bureaucratique est excédée par cette perte du rapport du global et du local qui est assurée par le tableau. Parce que dans le tableau Excel, nous n'avons plus de perception globale, on n'a qu'une localité qui est déléguée à nos règles de calcul associées aux cellules. Et donc, ça veut dire qu'il faut un effort de l'esprit pour pouvoir ressaisir cette globalité perdue et cette délégation qu'on a confiée au calcul. Et ça, c'est sans doute le combat de notre civilisation actuelle, hein. C'est être capable de ressaisir la perte de la globalité, puisqu'en déléguant à la machine, on a oublié que quand on délègue, eh bien c'est toujours qu'une délégation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se réapproprier. Le droit connaît très bien cet aspect-là. Quand on délègue quelque chose, il y a toujours un retour de la puissance délégante vers ce qui est délégué. Or, nous avons délégué sans négocier la puissance et le retour à la puissance délégante.
Merci beaucoup Bruno. Alors tu as été admirablement pédagogique et donc on a pris le temps de tout bien exposer. Comme on a pris le temps, il en reste un peu moins. Est-ce que
vous savez bien qu'il y avait une critique.
Ouais, si je commence par un truc gentil, tu te doutes que c'est pas mon genre. Est-ce que tu veux en 2-3 minutes nous livrer la dernière partie que tu avais prévue?
On va terminer sur une perplexité supérieure, en fait, encore à ce que j'ai déjà évoqué, et évoquer avec vous un questionnement qui m'est venu en relisant notre brave Emmanuel Kant, puisque Kant a une situation assez proche de la nôtre, c'est-à-dire qu'il était en train de vivre une révolution scientifique. Nous vivons la révolution numérique, lui vivait la révolution scientifique. Et dans différents ouvrages, mais par exemple dans sa logique, il va avoir un questionnaire anthropologique où il va se poser un certain nombre de questions ou de savoir ce que l'homme devient par rapport à cette révolution scientifique à laquelle il est en train d'assister et de vivre. Première question, que puis-je savoir? Eh bien, dans le cadre de la révolution scientifique de Kant, c'était la science newtonienne, la nouvelle science mécanique qui permettait d'expliquer ce qui se passait dans les cieux et sur Terre. Nous, aujourd'hui, avec le numérique, qu'est-ce qu'on peut savoir avec cette délégation qu'on évoquait tout à l'heure et cette manipulation qui devient le régime de traitement de nos connaissances. Et avec une notion qui s'est développée ces derniers temps, c'est que le calcul étant manipulation de signes qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire que le calcul travaille sur les codes. Et donc désormais, alors que Kant travaillait sur une science qui travaillait à partir de mesures, nous avons une science numérique qui travaille à partir de codes. Deuxième chose, question que se pose Kant, c'est que dois-je faire? C'est la question de la morale. Alors nous, c'est quelle est l'éthique du numérique? On évoquait tout à l'heure la puissance délégante et sa remontée à la puissance délégante, c'est précisément ça. À partir de quand faut-il reprendre la main sur la machine? Troisième question, que m'est-il permis d'espérer? Donc Kant, c'était sa doctrine de la religion. nous, on peut dire que c'est un peu tout et n'importe quoi à laquelle on assiste aujourd'hui. Par exemple, le transhumanisme est une des réponses qu'on nous promet, et on peut espérer qu'il y ait d'autres alternatives à explorer. Et puis enfin, une grande question, qu'est-ce que l'humain ? Est-ce que l'humain se réduit à la mesure qu'on peut en faire ? Est-ce que c'est un être moral qui a des fins et une autonomie ? Et aujourd'hui, dans notre contexte numérique, qu'est-ce que l'humain ? Est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'on a encore une individualité qu'on peut définir ? Et est-ce qu'on n'est pas seulement la somme des codes qui nous caractérisent ? Notre code chez Facebook, notre code à la sécurité sociale, notre code dans le droit du travail, etc. Et donc, c'est un questionnaire, et je pense qu'il est très pertinent pour nous aujourd'hui de savoir si on peut y répondre et comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces différents éléments, sachant que chacun est un continent en soi. Le premier, qui n'est pas le plus évident, qu'est-ce que je peux savoir avec le numérique ? Je pense que le numérique, la révolution numérique est d'abord une révolution épistémologique, en même temps qu'elle est cognitive et culturelle, mais ça change profondément les conditions du savoir. Et les débats actuels nous montrent que la science ne ressort pas forcément grandie de sa mobilisation du calcul.
Merci beaucoup Bruno. En plus, tu as tenu le temps. Alors, tu as même tellement bien tenu le temps qu'on va s'offrir une dernière question de Garance, qui est donc avec nous.
Du coup, en écoutant ce qui a été dit précédemment, je me posais une question, à savoir, est-ce que la différence un petit peu fondamentale qu'il y aurait entre raison orale, raison graphique et ensuite raison computationnelle, c'est que dans les deux premiers cas, la personne qui produit, on va dire, un contenu et peut aussi réceptionner le contenu, et ça peut être la même personne, alors que dans le cas de la raison computationnelle, c'est pas qu'on peut pas faire les deux, mais que disons que les personnes qui sont qui réceptionnent le contenu qu'on peut trouver sur une page web sont pas forcément celles derrière le calcul, et que du coup ça change tout dans la mesure où le résultat qu'on obtient n'est pas du tout la même dimension, on va dire, que tout ce qu'il y a derrière. Et ça rejoint une deuxième chose auquel je pensais, c'était que le passage entre raison orale, raison graphique et raison computationnelle, c'était un petit peu un passage d'une dimension, puis deux dimensions, et finalement trois dimensions, voire N dimensions, au moins au niveau du calcul. Sauf que le résultat de la raison computationnelle est loin d'être un résultat ND, c'est on va avoir une page devant nous qui simplifie grandement ce qui se cache derrière.
Alors effectivement, on peut définir une espèce de gradation entre les différentes raisons que j'ai évoquées. Et pour moi, une manière de définir cette gradation, ce serait de dire on renforce potentiellement les possibilités de décontextualisation. Et de ce fait, les difficultés que l'on a à se réapproprier le contenu. Lorsqu'on a un contenu oral, eh bien, en général, le médium privilégié, c'est la conversation. Les cultures antiques et médiévales, c'est la culture de la dispute, de l'argumentation orale entre les interlocuteurs. L'écrit, comme le dit Platon, sa grande force, c'est de pouvoir rouler ça et là, après qu'il a été écrit, auprès de ceux auxquels il est destiné, et également les autres. Et donc, on a une décontextualisation qui est encore renforcée, facilitée à partir de là. Et puis, évidemment, le numérique, eh bien, c'est la délégation au calcul, comme je l'ai évoqué, qui est la décontextualisation absolue, parce qu'il n'y a plus aucun contexte, il est effacé, parce que les calculs qu'on obtient n'ont pas de sens. Les symboles, les 0 et les 1, n'ont pas de sens. Le 0 ne dit jamais de quoi il est le 0. Vous prenez un binaire d'une vidéo, vous pouvez le relire comme un audio, par exemple. Vos players sont agnostiques sur l'origine de votre binaire. Donc, ça veut dire qu'on a bien une gradation et donc une potentialité de décontextualisation qui est beaucoup plus forte, du coup, une difficulté de remobilisation et de resémantisation qui devient de plus en plus difficile. Mais hier, sous-jacent à ça, d'un point de vue plus philosophique, j'ai envie de dire qu'on revient au problème de grammatisation. Quand je parle, quand j'écris, quand je calcule, qu'est-ce que je fais ? C'est que je mobilise pour mon expression une altérité radicale qui est une matière, la matière du son, la matière de l'écriture, la matière du calcul. En gros, je définis une altérité radicale qui est de plus en plus forte dans ces différentes raisons. Pourquoi de plus en plus forte ? Parce qu'elle perd de plus en plus progressivement de lien avec la sémantique de l'origine. Quand je parle et que je me souviens, eh bien, la sémantique du discours d'origine est beaucoup plus forte et beaucoup plus présente dans la mémoire. Quand j'écris, c'est déjà moins vrai.
Alors, Bruno, on vient de te perdre. Donc tu ne nous entends plus. Eh bien, c'est une façon de te quitter un petit peu cavalière. On te remercie beaucoup, beaucoup pour cette heure passée ensemble. Je crois que voilà, tu nous as. Je suis un peu désemparé du coup parce qu'en plus, je t'entends, enfin je te vois continuer de nous terminer la réponse à ta question. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. On a raté la toute fin, mais ça donne comme ça en quelque sorte une perspective à prolonger, peut-être dans le cadre d'un de tes cours, dans ce cas-là, à l'UTC, pour ceux que ça aura intéressé. Vous pouvez retrouver donc sur aperi.tube et sur librecours.net ce que l'on s'est raconté aujourd'hui, moins la fin donc. Et pour conclure, eh bien, on va finir avec Gilbert Simondon en espérant qu'il est toujours au bout du fil quant à lui.
Pour comprendre un objet technique et pour avoir une attitude droite et juste envers lui, il faut d'abord savoir comment il est constitué dans son essence et avoir assisté à sa genèse, ou directement quand c'est possible, ou par l'enseignement. Or, il n'existe pas d'enseignement de l'histoire des techniques, c'est extrêmement regrettable. Et en plus de la raison, en plus du concept, de la pensée, de l'intelligence, il y a, au-delà du théorique, peut-être une certaine relation à la réalité technique, qui est une relation partiellement affective et émotive, et qui ne doit pas être non plus l'équivalent d'une relation amoureuse ridicule. Il ne faut être ni trop passionné pour les objets techniques, ni exclusivement passionné pour un seul, bien sûr, ni d'autre part complètement indifférent envers eux et les considérant comme des esclaves. Il faut une attitude moyenne d'amitié, de société avec eux, de fréquentation correcte et peut-être quelque chose d'un peu ascétique afin que l'on sache les utiliser même quand ils sont anciens, ingrats, et que l'on puisse avoir une certaine gentillesse pour le vieil objet qui mérite, sinon de l'attendrissement, tout au moins des égards dus à son âge.
Upload, l'Université populaire du livre, sur Graphite.